Vous dites comment, vous, aujourd'hui, quand on vous dit c'est qui Robert Caillou, vous répondez comment?
Il y a un moment dans le livre, j'explique, enfin, je donne un peu ma position là-dessus, en disant que pour moi, c'est plutôt le cofondateur, parce que c'est vraiment lui qui a cherché du soutien, des fonds, qui a essayé de recruter notamment des étudiants, pour qu'il y ait suffisamment d'énergie autour de la toute petite équipe au CERN en Suisse qui travaillait sur ce mystérieux, cet obscur système informatique qui allait devenir le web et qui était supporté en fait par très peu de gens. Il y a vraiment très, très peu de monde qui comprenait en quoi ça consistait et l'utilité que ça pouvait avoir. Et surtout l'idéal qu'il y avait derrière cette invention. Mais ce n'est pas lui qui a inventé la technologie. Ça, c'est Tim Berners-Lee, le Britannique, avec qui il a formé un binôme pendant 4-5 ans, et un binôme qui était presque seul contre tous, parce que, comme je le dis, il y avait vraiment très peu de gens qui croyaient, qui percevaient en fait la portée de cette invention. Mais voilà, ce n'était pas l'inventeur, le génie créateur n'est pas derrière lui, mais c'était un peu l'évangéliste, en fait. C'est vraiment lui qui a prêché la bonne parole, entre guillemets, qui a essayé de convaincre un maximum de gens de l'utilité d'investir et d'aider au développement de ce système informatique.
Alors, c'est une personnalité assez étrange, en fait, hein, parce qu'on n'arrive pas vraiment à savoir, finalement, si il est vexé, si il est dépité. Voilà, vous dites quoi, vous, aujourd'hui, après avoir mené votre enquête et l'avoir rencontré dans des conditions un peu rocambolesques, mais voilà, à la fin, vous dites quoi?
Oui, alors pour moi, ce qui est certain, je pense, à son propos, c'est qu'il est désabusé, il est rempli de désillusions par rapport à ce qui est devenu le web aujourd'hui, par rapport à son système, entre guillemets. Il ne se reconnaît plus dans cette invention. Pour lui, l'idéal de départ, l'idéal qu'il portait avec son associé Tim Berners-Lee, il était perverti. Et c'est ça qui le chagrine très fortement et qui explique son silence aujourd'hui, le fait qu'il ne veuille plus donner aucune interview, qu'il ne donne plus aucune conférence. Maintenant, il y a une ambiguïté quand même, c'est de savoir est-ce qu'il souffre d'un manque de reconnaissance, parce que c'est son associé Tim Berners-Lee, le premier inventeur, qui est le plus célèbre, qui a quand même une certaine renommée internationale. Et je pense qu'il en a souffert de parfois être érigé comme le co-inventeur et puis simplement comme un développeur qui a cru très tôt dans l'idée de son associé britannique. Mais je peux pas non plus garantir que certifier qu'il a un problème de reconnaissance. Par exemple, ce livre qui sort à son propos, j'en ai parlé, il est resté assez évasif. Ça, il me semble que ça le laissait un petit peu indifférent. Et quand je lui ai annoncé que ça allait être édité, que ça sortait, voilà, au mois de mai 2019, il n'a jamais répondu. Donc je ne sais même pas s'il va le lire.
Mais il y a quand même, enfin, c'est deux personnalités très différentes, hein, ce binôme-là. Et justement, arrivé à l'heure de la désillusion, Tim Berners-Lee, quand même, lui, sort du bois, même si on l'a oublié aujourd'hui, quand même, il sort du bois pour dire, mais oh les gars, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et Caillou, au contraire, est muré dans son silence. Il y a quand même deux façons. Pourquoi Caillou ne sort pas du bois, justement?
Oui, alors vraiment, ce qui les réunit aujourd'hui tous les deux, c'est la désillusion. C'est voilà, ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Pour eux, ça a été vraiment perverti. Mais ce qui les sépare, comme vous le dites, c'est leur réaction par rapport à ça. Donc il y en a un, Tim Berners-Lee, qui accepte en fait maintenant de faire la couverture des magazines parce que c'est quelqu'un qui est plutôt timide, qui déteste ça, la lumière des médias. Voilà, en fait, lui, il ne recherche pas la reconnaissance. Mais maintenant, il s'y plie volontiers parce qu'il perçoit que c'est sans doute la seule issue possible, le seul moyen d'attirer l'attention du grand public sur le fait qu'il y a un grand danger. Là, il y a un grand danger d'une privatisation terrible et d'une concentration terrible, d'une invention qui était au départ censé être déconcentré au maximum dans les mains des citoyens. Et maintenant, ce qu'ils constatent, c'est que ce sont plutôt les GAFA, les grandes entreprises du web, qui possèdent l'essentiel de cette denrée que sont les données privées. Et donc pour lui et pour Robert Caillaux, c'est vraiment un grave problème. Mais Robert Caillaux, sa réaction, c'est, je crois, qu'une sorte de dégoût, de trop-plein, de lassitude, parce qu'il a passé 30 ans de sa carrière à expliquer les bienfaits du web, l'utilité de ce système, l'idéal, le rêve qu'il portait là-derrière. Et donc il en est lassé. Je pensais qu'il y a un moment, je crois que le dégoût est tellement important qu'il a envie de passer à autre chose. Et voilà, c'est un homme qui est maintenant retraité, qui vit dans la nature, dans les forêts du Jura, qui a une fille, une petite fille dont il a envie de prendre soin et qui veut se consacrer à d'autres choses. Je pense qu'il y a vraiment eu un trop-plein chez lui, quelque chose qui s'est cassé dans son for intérieur.
Alors, le projet de départ, ce web, en fait, c'est pour ça que vous appelez d'ailleurs votre livre Alexandria, c'est cette utopie de la connaissance partagée.
Mais voilà pourquoi ça s'appelle Alexandria, parce que Robert Caillaux, il avait voilà ce rêve d'une bibliothèque, le web, où on pourrait retrouver tous les savoirs qui seraient en libre accès, qui seraient gratuits, voilà vraiment un outil citoyen. Et ça a marché. Alors on peut dire que ça a marché, puisqu'il y a Wikipédia, par exemple. Et pour moi, Wikipédia, c'est le plus bel exemple de ce que rêvait de façonner, Tim Berners-Lee et Robert Caillou en particulier. Mais en fait, Robert Caillou est, je crois, arrivé à un tel niveau de rejet de son invention que même ça, il va voir le verre à moitié vide systématiquement. Et donc même Wikipédia, il va retrouver des choses à dire en disant « Ben oui, mais tout est de nouveau concentré sur un seul site web. Il aimerait que chacun chez soi, dans son salon, ait un serveur et donc il contrôle de ses propres données. » Et voilà, donc même Wikipédia, il va y voir du négatif, quoi.
On voit aussi, vous décrivez très très bien la façon absolument effarante avec laquelle l'Europe a laissé filer cette chose, n'a rien compris, rien vu, rien capté de ce qui pouvait être intéressant et a laissé les Américains jouer avec.
Oui, et ça c'est exactement, et c'est un chapitre de cette histoire du web qui est très peu connu, qui a été très peu relaté, étrangement, parce que c'est quand même l'année 1993 et encore plus 93 et 94 en particulier, sont deux années où le web a vraiment basculé. Le centre de gravité du web est passé de l'Europe, son berceau, là où il était inventé, pour aller très rapidement vers les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on a capté tout de suite le potentiel qu'il y avait derrière ce système informatique, et qu'on pouvait surtout en faire quelque chose, un outil vraiment commercial, et pas seulement un outil académique ou en open source. Et en Europe, il y a eu un blocage, une mécompréhension. On ne savait même pas ce qu'était Internet, hein, donc Internet qui est le réseau qui permet, après l'usage du web, il y avait une incompréhension totale. Vous voyez, l'Europe, la Commission européenne, alors que Robert Caillot n'a pas, c'est pas faute d'avoir essayé, il s'est rendu de nombreuses fois à Bruxelles, jusque dans le bureau de Jacques Delors, la Commission, qui n'a même pas ouvert le dossier, qui n'a pas donné d'accusé de réception. Et son dossier qui s'appelait Alexandria, hein, qui a donné le titre à mon livre, c'était pour justement vulgariser ce système et montrer que ça avait un intérêt pour l'ensemble des citoyens de l'Union européenne, mais ça n'a pas été entendu. Et aux États-Unis, on avait une sensibilité plus grande, et on l'a toujours, à la programmation informatique. Les grands patrons d'entreprise aux États-Unis, ils ont une formation de développeurs, ce qui n'est pas le cas en Europe, ou moins le cas. Ils sont souvent issus d'écoles de commerce. Et donc, peut-être qu'il y a une moins grande sensibilité, une moins grande compréhension aux enjeux et au potentiel qu'il peut y avoir derrière un logiciel, en fait. Mais je voudrais quand même juste ajouter que... Donc, ce n'est pas du tout un livre pour les geeks, etc. Enfin, j'ai à la fois voulu, je pense, intéresser les personnes qui sont familières de la programmation informatique, parce que je pense qu'elles vont apprendre beaucoup de choses, parce que l'histoire du web, étonnamment, est vraiment très, très peu connue. Mais j'ai voulu aussi garder avec moi, tout au long de ce récit, les lecteurs qui ne connaissent absolument rien à l'informatique, mais qui vont sans doute réaliser que c'est une invention qui les concerne tous les jours, et peut-être que ça va changer leur regard sur l'usage qu'ils en font quotidiennement. Et puis c'est aussi l'histoire finalement d'une merveille qui a été construite par l'homme, et puis qui a été détruite par l'homme, ou qui est en phase de destruction. Et j'essaye de dresser différents parallèles avec d'autres exemples, à commencer par la bibliothèque d'Alexandrie aussi, mais aussi avec le réchauffement climatique, puisque c'est le thème qui préoccupe surtout Robert Caillot aujourd'hui. Et donc c'est quand même l'image dans l'ensemble que j'ai essayé de faire traverser dans ce livre, c'est l'image de nouveau une merveille que l'homme a réussi à construire, et puis que très rapidement il est capable de détruire.
Est-ce que la manipulation, est-ce que c'est Lockis qui a gagné, en fait, dans cette terrible histoire
Ben oui, après, par exemple, Robert Caillot disait on peut toujours faire un usage consciencieux et libre et indépendant du web. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Si on veut communiquer, c'est difficile de ne pas passer par Facebook ou Twitter ou Instagram ou Snapchat, de créer son blog et d'essayer de se faire connaître par ce biais-là. J'utilise juste un exemple, mais c'est très difficile de contourner les GAFA aujourd'hui. Il faut avoir du courage, de l'énergie, un peu de connaissances informatiques, du temps. Et puis surtout, il faut avoir conscience qu'il y a des enjeux quand même assez importants qui se jouent là derrière. Donc c'est possible, mais dans l'ensemble, on peut dire que oui, le dieu Loki a d'une certaine façon gagné, parce que voilà, les fake news prolifèrent sur Internet, c'est devenu un peu un déchaînement de haine, de manipulation, notamment politique, particulièrement quand il y a des campagnes électorales importantes qui se jouent. Donc en grande partie, Loki a gagné, mais pas tout, quoi. Il y a encore des terres, des parcelles de territoire du web qui sont relativement libres et qui répondent à la conception que s'en faisait Robert Caillot au départ.
Quand on entend aujourd'hui Bruno Le Maire demander 3% du chiffre d'affaires des GAFA en tant que taxe, on se dit qu'en 94, on est vraiment devenu des nains, en fait. Et aujourd'hui, on tend la main pour avoir 3%, une imposition, une petite taxounette, là, comme on dit.
Oui, c'est vrai qu'on est un peu dans une posture d'infériorité, quoi, et de presque de mendicité, alors qu'on avait toutes les cartes en main, en fait, il y a 25 ans. Mais voilà, c'est nouveau l'histoire qui se répète, où on construit quelque chose de libre et d'universel et en open source, et puis finalement, il y a toujours quelques petits puissants qui parviennent à avoir la main mise là-dessus et à concentrer tous les pouvoirs sur eux. Et c'est... L'histoire repasse les mêmes plats. Ici, c'est dans une invention qui est majeure, qui est mondiale, qui est sans frontières, et voilà, qui a changé nos vies très rapidement. C'est ça qui est d'autant plus fascinant.